Merci beaucoup tout le monde. Merci Mylène. Merci pour votre accueil. C'est ça, donc juste pour faire une petite parenthèse, marchand du temple, effectivement, à l'entrée, il y a un livre, Nouveaux Horizons, qui est une aide pour les étudiants internationaux. Donc je travaille parmi les étudiants. Donc si vous êtes étudiant international ou si vous connaissez des étudiants internationaux, comment réfléchir à la question de nouvelles cultures, etc. Il y a des exemplaires qui sont disponibles. J'ai écrit un livre sur l'humilité. Vivre l'humilité sous titre Méditation d'un orgueilleux. Donc si ça vous intéresse, il est disponible aussi à la sortie. Et puis j'ai aussi quelques copies de la dernière lettre de nouvelles des GBUC. Donc c'est un ministère où on travaille parmi les étudiants. Comment on fait pour être étudiant et chrétien et pas être schizophrène entre les deux? Voilà, si vous voulez avoir quelques nouvelles là-dessus, c'est disponible à la sortie aussi. Et si vous voulez un bon ambassadeur de ça, parlez avec Tutunda. Je pense que lui est un très, très bon ambassadeur des GBU. Merci, Toutou. OK, ce matin, c'est dimanche de Pentecôte. Et on ne peut pas ne pas s'intéresser au livre des Actes des Apôtres. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? John Stott nous propose de parler non pas juste du livre des Actes des Apôtres, mais du livre des Actes du Saint-Esprit par l'intermédiaire des apôtres. Et ce matin, je vous propose qu'on regarde les Actes du Saint-Esprit par l'intermédiaire des apôtres en réponse à la prière. Et je crois que si on regarde le livre des Actes, on voit que du début à la fin, la prière est une constante. Ils priaient, ils jeûnaient, ils élèvent la voix vers Dieu, etc., etc. Et donc ce matin, on va s'intéresser à la prière de l'Église dans Actes chapitre 4. Et c'est intéressant parce qu'on ne sait pas juste qu'ils prient, mais on sait ce qu'ils prient. On sait le contenu de la prière. Et donc, on va s'intéresser à cette prière-là. Qu'est-ce que l'Église prie? Mais aussi, qu'est-ce que l'Église ne prie pas? Pourquoi ils prient ça? Et puis, comment est-ce que ça peut nous inspirer pour notre prière aujourd'hui? Le titre de la prédication, c'est « La prière qui donne une vision juste ». Et on va voir comment cette prière montre que les disciples ont une vision juste et comment est-ce que ça peut nous encourager, nous, à avoir aussi une vision qui soit le plus juste possible. Ouais, merci beaucoup. Donc voilà, vous avez le plan du message, on va juste... avoir un petit peu de contexte, qu'est-ce qui a mené l'Église à cette prière? On va lire le texte, évidemment, quelques commentaires, et puis ensuite, on va faire une mise en pratique. Donc, regarde ton voisin ou ta voisine, parce que tu vas prier avec lui dans quelques instants. Quelques mots sur le contexte. Donc, juste après la journée de la Pentecôte, Pierre et Jean vont au temple et ils rencontrent un boiteux. Il quêtait à l'entrée du temple et le boiteux est guéri. Et puis tout le monde dit, mais c'est extraordinaire ce que ces deux gars-là ont fait. Et Pierre dit dans Actes 3, 12, pourquoi est-ce que vous fixez les regards sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou notre propre piété que nous avons fait marcher cet homme? Et Pierre continue en parlant de Jésus, celui au nom duquel le miracle a été accompli. Et les responsables religieux, au lieu de célébrer cette guérison, se fâchent. Ils arrêtent Pierre et Jean, ils les mettent en prison. Et ils sont un petit peu pris avec ce dilemme-là, de dire, on ne veut pas que le nom de Jésus soit prêché, on ne veut pas que notre influence diminue, mais en même temps, il y a quelqu'un qui a été guéri et on ne peut pas nier ça. Et puis finalement, ils trouvent une solution un petit peu intermédiaire, comme ça, ils menacent Pierre et Jean, ils leur disent, on ne veut plus que vous enseigniez, et ils les libèrent. Et donc, juste pour faire un petit point de la situation, Pierre et Jean, ils sont leaders d'une église qui double à peu près à chaque semaine. Et donc, je ne sais pas, on peut s'imaginer qu'ils en avaient déjà pas mal plein les mains comme ça. Ils ont passé la nuit en prison, ils sont menacés d'être remis en prison, recapturés, si on peut dire. Donc, ils ont cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Souvenons-nous aussi que la crucifixion de Jésus, c'était il y a quelques semaines, moins de 2 mois à l'époque. Donc, ceux qui menacent Pierre et Jean, c'est les mêmes que ceux qui avaient fait crucifier Jésus quelques semaines avant. Et donc, Pour Pierre et Jean, le danger, évidemment, c'est de se retrouver en prison, mais possiblement même de se faire condamner à la crucifixion eux aussi. Et donc, on est véritablement dans une situation de crise. Et que vont faire Pierre et Jean? Que va faire l'Église dans cette situation-là? Et donc, on va lire Acte 4, les versets 23 à 31. Et si tout va bien, je vais arriver à ce que vous puissiez les lire avec moi. Donc, une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés, les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai que Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. On veut juste souligner le fait que les disciples, leur première réaction, c'est de prier. Hein, voilà une situation, voilà une crise. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Ben, on prie. Est-ce que je réalise que prier, c'est ma meilleure ressource? C'est ce qui m'aide le plus. Que je ne suis pas seul dans ma situation, mais que je peux m'adresser à Dieu. Je pense que le deuxième point, la prière, on a besoin que ce soit une réalité quotidienne. Si j'ai une vie de prière à chaque jour, si je suis confronté à une crise, c'est là où j'ai le plus de chances de pouvoir réagir avec la prière. Hein, si tu n'as jamais prié de ta vie, Dieu peut te faire grâce le jour de crise, mais si tu as une habitude de prière quotidienne, au jour de la crise, ça va être plus simple, ça va être plus naturel. Prier, notre premier réflexe. Hein, des fois, oh, j'ai tout essayé, il ne me reste plus que la prière. C'est mon dernier recours. Pourquoi pas commencer par la prière? Hein, c'est intéressant que l'Église n'a pas commencé par créer un comité de réflexion stratégique, et puis un sous-comité de pilotage. Et puis après 2 ans, ils ont dit, Seigneur, que la volonté des comités s'accomplisse sur la terre comme aux cieux. Leur premier réflexe, c'était la prière. Et enfin, une prière qui est une pratique communautaire. Ils se sont mis tous ensemble. On a besoin de se tenir avec d'autres pour prier. Honnêtement, moi, cette semaine, ma vie de prière, ce n'était pas terrible. C'était ironique. Je prêche le dimanche sur la prière, puis tu as de la misère à prier. Jeudi à midi, j'ai vu un ami, puis je lui ai dit, écoute, j'ai de la peine. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Hier, Cécile, mon épouse, je lui ai dit, écoute, Cécile, j'ai de la misère à prier. Est-ce qu'on peut prier ensemble? On a besoin d'être ensemble, de se tenir ensemble pour prier. Et donc voilà, l'Église commence par prier. Et on va s'intéresser maintenant au contenu de cette prière. J'ai fait pleurer un premier enfant, ça commence pas bien là. Mais on va s'intéresser au contenu de cette prière et on va voir comment cette prière donne une perspective ou une vision juste dans 3 différents domaines. La première chose, cette prière donne une vision juste de Dieu, de qui est Dieu. Le premier mot de la prière, au verset 24, c'est « maître ». Et en grec, le mot qui est utilisé, c'est « despotès ». Okay? D'où on a notre mot français « despote ». Fait qu'on est un peu mal à l'aise avec ça, de comparer Dieu avec un despote. Mais l'idée, c'est que le despote, c'est celui qui a toute autorité. Celui qui a l'autorité absolue. Donc nous, quand on pense à despote, on dit celui qui a l'autorité absolue et qui l'utilise mal. Mais ce n'était pas forcément le cas. L'idée là, c'est qu'ils affirment l'autorité de Dieu. Hein, c'est Dieu qui est au contrôle du monde. Leur prière commence par Dieu et leur prière commence par déclarer la souveraineté de Dieu. En particulier, ça veut dire que les autorités religieuses qui viennent de faire condamner Jésus, qui viennent d'emprisonner Pierre et Jean, ce n'est pas elles qui sont au contrôle du monde. Au-dessus d'elles, il y a un Dieu. Pilate et ses légionnaires qui ont crucifié Jésus ne sont pas au contrôle du monde. Au-dessus de Pilate, il y a un Dieu. César même, l'empereur romain dans son palais à Rome, n'est pas au contrôle du monde. Au-dessus de César, il y a un Dieu, et c'est lui qui est le maître. Hein, en un seul mot, il renverse complètement la perspective. On n'a pas besoin d'avoir peur des autorités juives, des autorités romaines, parce qu'au-dessus, il y a notre Dieu, et lui règne. Deuxième chose, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Verset 24. Non seulement Dieu est au contrôle des choses, mais Dieu est celui qui a tout créé. Et qui connaît mieux le fonctionnement de la machine que son inventeur? Hein? L'univers, toutes ses merveilles ont été créées par Dieu. Il est à l'origine de toutes choses. Et troisième chose, verset 25, « C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. » Dieu est celui qui parle. Dieu est celui qui se fait connaître à nous au travers de sa parole. Il est le Créateur, il est le Maître, mais il est aussi celui qui se révèle. Et donc, en quelques mots, la prière de l'Église renverse la perspective. Oui, la crise est là, et on ne va pas la nier. Oui, elle nous dépasse et on n'a pas les moyens nous-mêmes d'y faire face, mais Dieu est plus grand. Lui a l'autorité dans sa main, lui est le Créateur et lui nous parle et lui se révèle. Hein? La prière qui donne une vision juste de Dieu. On continue. La prière qui donne une vision juste de l'histoire. Verset 25 jusqu'à 29. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Ça, c'est une citation du psaume 2. Et ensuite, la prière de l'Église continue. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. La prière commence avec Dieu et elle continue avec sa parole. Hein, la prière de l'Église ne commence pas avec la crise, elle ne commence pas avec eux-mêmes, avec leur situation, avec leur ressenti. Elle commence avec la personne de Dieu, qui il est, et avec sa parole, qu'est-ce qu'il dit. Et une vision juste de l'histoire du monde, c'est une vision juste de qui est au centre de l'histoire. Et donc, dans leur prière, les disciples nous montrent que Jésus-Christ, le saint serviteur que Dieu a consacré par onction, lui est au centre de l'histoire. C'est autour de lui que tourne l'histoire de l'humanité. Et quand les êtres humains, Hérode, Pilate et toute cette équipe-là, ils se sont mis ensemble pour condamner et faire crucifier Jésus. Ils étaient en train d'accomplir le plan que Dieu avait pour offrir le salut et la réconciliation au monde. Par la mort et par la résurrection de Christ, Dieu offre, nous offre, la possibilité d'être réconciliés avec lui. Et ça, c'est le centre de l'histoire. Et c'est comme ça que l'Église, dans sa prière, comprend l'histoire. Quand David, dans le psaume 2, il parle de sa situation d'un roi qui est attaqué par différentes nations, mais l'Église, dans sa prière, va dire « c'est une préfiguration de ce qui va arriver à un roi plus grand, à Jésus ». Et souvenez-vous, quand Jésus est sur la croix, au-dessus de sa tête, il y avait un écriteau qui donnait le motif de sa condamnation. Et sur l'écriteau était marqué « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Et dans Jean 19, il est précisé que cet écriteau était en trois langues, en latin, la langue officielle de l'Empire romain, en grec, la langue de la culture et du commerce, et en araméen, la langue locale du peuple juif, et donc un signe que toutes les nations pouvaient saisir et comprendre ce qui était en train de se passer. Et finalement, la Pentecôte, c'est juste la suite de ça. Jésus au centre de l'histoire. Ça veut dire, by the way, que moi et ma vie ne sommes pas au centre de l'histoire. Ça peut être dangereux si je commence à me dire, en fait, le plus important, c'est moi, c'est ma vie, c'est mes rêves, et puis Dieu devient mon serviteur. Dieu devient l'assistant qui va me permettre de réaliser mes projets. Et là, on voit que pour les disciples, non, Jésus est au centre de l'histoire. Ils auraient pu citer le psaume 61:4, qui est aussi un psaume de David, et qui dit « L'Éternel est pour moi un refuge, une tour fortifiée en face de l'ennemi ». Ça aurait été réel dans leur situation. Ils auraient pu citer le psaume 58, un autre psaume de David, qui dit « Ô Dieu, brise-leur les dents. Hein? Éternel, arrache les mâchoires de ces lions. Okay? » Le problème, c'est que s'ils avaient choisi ces versets-là, ils perdaient une vision juste de l'histoire. Ils auraient mis au centre de l'histoire leur propre vie, leur propre situation, et ils auraient mis Dieu à leur service. Donc non, ma vie, mes rêves, mes projets, mes ambitions ne sont pas au centre de l'histoire. Dieu n'est pas mon assistant et je ne peux pas le manipuler avec des versets bibliques que je poste sur Instagram. Y en a un ou deux qui ont compris l'allusion, c'est bien. Christ, sa mort, sa résurrection sont au centre de l'histoire. Et mon histoire, ma petite histoire de vie de Joël, j'ai le privilège qu'elle soit un tout petit morceau de la grande histoire de Dieu. Dernier point sur cette vision juste de l'histoire, alors que le mal semble triompher, que Pilate, Hérode, etc. sont en train d'avoir Jésus qui est crucifié, la réalité c'est que c'est le plan de salut de Dieu qui est en train de s'accomplir. Et donc, quelle espérance pour nous dans un monde où le mal, si souvent, peut sembler triompher. Hein? Malgré le chaos, Dieu est là. Je pense à la situation en Haïti. Je pense à la situation au Soudan. Je pense à la situation en Ukraine, en Russie, au Venezuela, à la situation Israël-Palestine. Et tant d'autres lieux, on a l'impression que le mal triomphe. Et j'aimerais juste vous raconter une petite histoire. J'ai le privilège de rencontrer un collègue qui travaille parmi les étudiants en Israël. Et lui me disait, l'immense défi qu'on a là-bas, c'est que toute la société est traversée par ce conflit. Tu es de quel côté ? Es-tu du côté des Israéliens parce que Dieu a promis à son peuple la terre ? Et donc, ça c'est le bon côté. Ou es-tu du côté des Palestiniens parce que Dieu est du côté des faibles et du côté des opprimés? Et donc, toute la société, partout, tout le monde, toujours cette question-là. Tu es de quel côté? Et probablement que Dieu est de mon côté aussi. Et lui dit, moi, mon rêve et mon défi, c'est que les gens puissent voir que Christ est plus grand et transcende les pires conflits, même ce conflit-là, même cette violence-là. Et donc, lui, il travaille avec les étudiants. Et il travaille, en fait, avec trois groupes d'étudiants en Israël. Des étudiants, on va dire, d'origine hébreu, mais chrétien, donc peut-être des juifs messianiques. Il travaille avec des étudiants arabes palestiniens. Et il travaille aussi avec toute une ribambelle d'étudiants internationaux qui débarquent et qui pensent qu'ils font une session à Jérusalem et qu'ils vont régler le conflit israélo-palestinien. Donc, c'est compliqué. Et puis, juste pour être sûr que ce soit le défi soit assez grand, il a dit, OK, on va faire un camp, on va mettre tout ce monde-là, Mais on va encore inviter des étudiants palestiniens qui veulent se joindre à nous. Donc imaginez la situation. Alors, il s'est passé la chose suivante. Quand les étudiants israéliens hébreux ont appris qu'il allait y avoir des Palestiniens au camp, ils ont dit « on ne vient pas ». Il y a juste une qui a fini par dire « ok, ben moi je viens quand même ». Mais tous les autres ont dit « c'est exclu, on ne vient pas ». Et puis, le camp a commencé, les étudiants palestiniens sont arrivés. Ils étaient 4 ou 5 dans une auto. Ils sont arrivés là, ils ont dit « quoi ? Il y a des Israéliens ici, on repart ». Mais il y a une qui est restée quand même. Et donc il y avait une Israélienne qui était venue quand même malgré tout et une Palestinienne qui était restée quand même malgré tout. Et devinez ce qui s'est passé ? Ils ont fait connaissance l'une de l'autre, puis elles sont devenues amies. Et juste de dire, il y a une petite flamme d'espérance, malgré la violence, malgré ce conflit, ces deux filles que tout séparait, qui auraient dû ne jamais se parler, ne jamais se croiser, ont pu devenir amies à cause de Christ. Et donc, cette vision juste de l'histoire, Christ est au centre de l'histoire. Moi, je ne suis pas au centre de l'histoire, et même face au mal qui peut sembler triompher, on a une espérance qui est plus grande. Et pour terminer, une vision juste de la situation ou des circonstances. Hein. Éventuellement, les disciples arrivent à prier pour leur situation. Ils commencent simplement en disant « Maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. » Il n'y a pas besoin de réexpliquer toute la situation à Dieu, il est au courant, c'est bon. Il n'y a pas besoin de se plaindre ou de chialer, ce n'est pas nécessaire. Et donc finalement, il reste une ligne, sois attentif à leurs menaces. Hein, il y a un statut Facebook que j'aime bien qui dit « Prier, ce n'est pas la même chose que de se faire du souci dans la présence de Dieu. » Alors des fois, on commence comme ça, « Je suis inquiet à cause de ceci ou de cela, mais Seigneur, aide-moi à aller plus loin. Comment est-ce que toi, tu vois les choses ?» Hein? Les mêmes qui ont crucifié Jésus et qui ont mis en prison Paul et Jean, Pierre et Jean, nous menacent. Seigneur, tu le sais, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Et ensuite, ils font deux requêtes. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Hein, ils n'expliquent pas à Dieu ce qu'ils devraient faire vu les circonstances. C'est juste, ok, que ton royaume avance. Hein. Le souci, ce n'est pas notre confort, ce n'est pas notre sécurité, ce n'est pas notre situation, c'est que ton règne vienne. Donne-nous de partager l'évangile. Et enfin, troisième élément dans leur prière, déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Il y a un commentaire qui disait, c'est intéressant qu'il demande des guérisons. C'est-à-dire, il demande des signes de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Moi, j'aurais dit, Seigneur, tant qu'à envoyer un signe, envoie le feu du ciel sur Pilate, envoie le feu du ciel sur les autorités religieuses, envoie le feu du ciel sur ceux qui le méritent sans foi. Mais non, eux, ils prient que ta grâce, que ta bonté, que ton amour puisse être démontré envers les malades, envers ceux qui sont faibles, envers ceux qui sont les plus négligés ou ceux qui souffrent. Et quand on en est rendu là, puis qu'on a terminé de regarder cette prière, est-ce que c'est vraiment si étonnant de se dire que Dieu répond à une prière comme ça ? Hein ? Dieu répond. Quand ils eurent prié, verset 31, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Et moi, j'aime l'Ancien Testament, donc on sait quand il y a un lieu qui tremble, c'est qu'il y a la présence de Dieu qui est là. Hein ? Dieu est dans la place, si on peut dire ça comme ça. Mais pas que. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Hein, Dieu n'est pas juste présent dans la place, Dieu est présent dans les vies des uns et des autres. Et finalement, c'est ça qu'on veut. Mais pas que. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils persévèrent à annoncer l'évangile. Dieu agit au travers d'eux. C'est comme si cette présence de Dieu qui est en eux déborde autour d'eux. Et donc, Dieu n'enlève pas les obstacles, n'enlève pas la menace, n'enlève pas les crises. Dieu les fortifie pour qu'ils puissent continuer dans la mission malgré la menace, malgré les obstacles, malgré la crise. Quand on en est rendu là, je pense qu'il faut que j'arrête de parler et que c'est le temps de prier. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Amen. Et donc, on va On va prier comme on l'a fait depuis bientôt 3 ou 4 ans au GBUC. Donc on s'est rendu compte que ce qui nourrit notre prière, c'est de prier par rapport à un texte biblique. Donc on va faire ça, on va se laisser inspirer par ce texte et puis on va prier. Donc on va faire ça comme ça, on va faire des petits groupes. Prie avec ton voisin, ta voisine, les deux personnes à côté de toi. On ne veut pas commencer à déplacer toutes les chaises. Et puis, qu'est-ce que vous avez fait? On n'a pas prié, par contre, on a déplacé les chaises. Donc, on va prier en petit groupe. Je vous invite à prier à tour de rôle. Je sais qu'il y a différentes cultures, différentes manières de prier, mais tu sais, OK, mais moi, je vais dire un mot de prière, puis mon voisin, ma voisine va continuer, dire Amen, etc. Puis on se répond comme ça, d'accord? Et puis, j'aimerais juste vous encourager. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ma tentation, c'est toujours de commencer par discuter 10 minutes. Puis après, on n'a plus le temps de prier. T'sais. Donc, mettons-nous directement dans la prière et puis prenons ce temps pour prier ensemble. Et donc, on va avoir comme 3 petits temps de prière par rapport à ces 3 visions justes qu'on a vues dans notre méditation ce matin. Et donc, on veut commencer par prier pour avoir une vision juste de Dieu, ou bien juste de s'émerveiller de qui est Dieu. Et donc, tourne-toi vers ton voisin et puis commencez à prier cette réalité que Dieu est le maître et que c'est extraordinaire, qu'il tient toutes choses dans ses mains. Prions et émerveillons-nous que Dieu est le Créateur, qu'il est à l'origine de toutes choses. Et émerveillons-nous enfin que Dieu est celui qui nous parle et qui se révèle à nous par sa parole. Alors je vous laisse. Vous tournez vers votre voisin et priez quelques minutes. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Seigneur, merci pour cette réalité d'une prière qui replace, qui nous donne une vision juste. Et Seigneur, le but de la prière, c'est... Oui, c'est de connecter avec toi, Seigneur, mais c'est que nos vies soient changées, soient transformées. Seigneur, que notre vision soit renouvelée et que nos vies puissent être utiles pour l'avancement de ton royaume et pour partager ton évangile autour de nous. Alors, Seigneur, que demain, dans les jours, dans les semaines à venir, Seigneur, nous puissions être utilisés par toi pour ta gloire. Amen.